Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Si vous avez raté l'épisode précédent, vous n'avez pas pu assister à la mémorable bataille de reconquête du château, digne d'un péplum de Cécile B2000.
Il ne pleut pas, ciel légèrement couvert, on passe le portail du château. Les gardes font leur annonce. C'est une des nouveautés du sénéchal. Deux gardes en permanence au portail hurlent tous les mouvements d'entrée et de sortie. Au début, ils annonçaient même les bêtes seules. Les mômes en profitaient, ils envoyaient les chiens qui entraient et sortaient de la cour. Les gardes tournaient en chèvres. Maintenant, on n'annonce que les gens et les bêtes qui les accompagnent. Toujours est-il que, comme départ discret, on peut faire mieux. Un des deux gardes au portail, qui a de l'humour, annonce « 4 mules, un moine, un piéton et une paire de nichons !» Je me retourne et lui demande s'il veut manger avec une paille cette semaine. Il la ferme et baisse les yeux. J'ai essayé de passer par la porte dérobée des cuisines, mais ça ne l'a pas fait. Refus catégorique. Le moine, les mules et toi, oui, la pute, non. Marguerite l'a mal pris. Elle s'est jetée sur le cuistot en le traitant de petite bite. Je vous fais grâce de l'échange verbal entre ces deux êtres raffinés. Mais une chose est certaine, le moine et moi, on a eu du mal à éviter le drame. Surtout que les marmitons ont voulu aider leur patron. Après une belle distribution de torgnoles, on reflue dans la cour entraînant Marguerite et l'on essaye de sortir digne par le portail. La cour s'est remplie de curieux, accourus au bruit de l'échafouré, qui nous applaudissent. Un rien les amuse. Faut dire qu'entre le moine qui pisse le sang et Marguerite, un sein à l'air et un coquard du plus bel effet, nous sommes élégants. Personnellement, je n'ai quasiment rien. J'avoue que, comme j'essayais de sortir Marguerite de la cuisine, elle m'a servi de bouclier. C'est elle qui prenait. Arrivé en lisière de forêt, on panse nos blessures et Marguerite se rajuste. Jusqu'au soir, rien à signaler. On rumine notre départ en fanfare. Comme prévu, en fin d'après-midi, on arrive à la source miraculeuse chez les druidesses. On fait péter la bisse. Elle s'occupe de l'œil de Marguerite, soigne le moine et s'enquiert du pourquoi, du comment de notre équipage. Malgré les contusions, Marguerite prend bain dans la source dite miraculeuse. On ne sait pas si ça guérit vraiment, mais en tout cas, elle sera propre. Comme elle a le sens du spectacle, elle nous fait une sortie du bain nue, ruisselante, genre la naissance du monde. Tout ça avec un œil au beurre noir. « On va à la mer !» explique en suintant le moine. Faut dire qu'il a une lèvre qui a doublé de volume. On leur raconte notre discret départ. Ça les fait bien marrer. Je leur donne les œufs que j'ai pris en partant dans le poulailler et un bout de lard. C'est leur péché mignon. Une omelette au lard, elles te suivent au bout du monde. Pendant le repas, on discute des événements passés, de ceux de l'instant et de ceux à venir. La montée en puissance de la chrétienté ne les fait pas marrer. Elles ne voient pas où est le progrès. Attention! Elles ne pensent pas que leurs croyances et leurs coutumes soient les meilleures du monde, mais comme elles disent, elles ont fait leurs preuves. On peut améliorer, mais ce n'est pas en jetant le bébé avec l'eau du bain qu'on va tout régler. » Le moine tente d'expliquer que derrière la religion, il y a le pouvoir, et qui dit pouvoir dit argent. Marguerite élève le débat en précisant que si elle peut parler de ce qu'elle connaît, on lui a raconté que les moines tiennent les bordels dans certaines villes. Alors, si on laisse faire, bientôt ils vont vendre le pain. Le pain, c'est son dada. Je ne sais pas pourquoi. Elle pourrait passer ses journées à faire du pain. L'odeur de la farine doit lui monter à la tête. Notez que pendant qu'elle pétrit, elle ne fait pas de bêtises. En fin de repas, tout le monde est du même avis. Le mauvais temps va s'abattre sur la région. Pour varier, le moine et sa copine s'éclipsent. Les deux autres nous donnent des nouvelles des préparatifs de la grande procession en fin de mois et on s'installe pour la nuit. Au petit déjeuner, au petit matin, les deux tourtereaux nous apprennent qu'Ada vient avec nous. Les trois druides se réunissent pour entériner la décision de leur copine. C'est la règle chez elles. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut que les autres soient d'accord. Elle fait son baluchon et nous voilà sur la route. Pour donner une raison valable à Ada de se promener, les deux autres l'ont chargée de ramener des simples du bord de mer qu'on ne trouve pas par ici, genre salicorne et Christ marine. Tout ça pour le mieux dans le meilleur des mondes. Normalement, on ne doit pas se perdre. On suit la rivière qui, d'après le moine, ne peut qu'arriver à la mer. D'après lui, les rivières arrivent toujours à la mer. On le croit, il sait lire et écrire. Ada se révèle une bonne compagne de voyage. On se relaye avec les mules et le deuxième jour, le voyage est avalé comme si de rien n'était. En cheminant, on parle de choses et d'autres. À la halte de midi, nous avons abordé le problème des nuages. D'où viennent-ils? Où vont-ils? Vaste sujet. Si on admet qu'ils viennent de la mer, je dis bien si, comme ils peuvent arriver des quatre points cardinaux, on peut penser que la mer nous entoure. Est-ce que nos nuages vont chez les autres, ou chaque région a ses propres nuages? En se basant sur la vitesse cheval, on peut penser que les nuages nous suivent, mais à une échelle plus vaste. On ne sait pas pourquoi il y a des jours sans nuages, si les mers, elles, sont toujours là. Ou alors on pourrait penser que la mer ne fait pas des nuages tous les jours, mais qui décide de ça? Comme on le voit, chacun a son idée et le champ des questionnements est vaste. Enfin, comme on va voir, la mer, peut-être aurions-nous un début de réponse. Au soir du deuxième jour, il y a comme de l'électricité dans l'air. Déjà, la veille, en fin de journée, on avait cru apercevoir quelques cavaliers sur l'autre rive. Comme le niveau de la rivière est haut, on ne pense pas qu'ils vont traverser. Ada ne connaissait pas ces gens. Barbares, pas barbares. Le soir commence à tomber. On s'installe pour la nuit, repas succinct et dodo. Les mules sont attachées entre deux arbres. Tout est calme. La lune est cachée par des nuages. L'air est doux. Tout baigne. Pas de câlin ce soir. Marguerite fait la gueule. J'ai voulu savoir la raison du différend avec le cuistot. Elle m'a envoyé sur les roses. Au mi-temps de la nuit, on est réveillé par les mules. Le temps de réaliser la situation, on se prend une volée de gourdins sur le ciboulot. Les assaillants sont plusieurs et nous bastonnent à qui mieux mieux. On essaye de se défendre, mais à moitié à poil dans le noir, nu-pieds et sans savoir combien ils sont, ce n'est pas gagné d'avance. Au final, c'est même perdu. Tout cesse aussi subitement que ça a commencé. Au bruit, on comprend qu'ils nous volent des mules. Mais on ne peut rien faire, on est contusionné de partout. On rallume le feu pour voir l'étendue des dégâts. Ce n'est pas joli, joli. Le moine pisse le sang au niveau de l'oreille. Marguerite est zébrée de coups de bâton. Moi-même, je ne vaux pas mieux. Le sang coule sur mon visage. Ada est étendue, sans vie, au sol. On vérifie, on la secoue, on lui parle. Rien n'y fait. Elle reste sans vie. Elle a pris un mauvais coup sur la tempe. Le côté droit du visage est gonflé et tout bleu. La consternation gagne notre petit groupe. On décide d'attendre le lever du jour. Le moine et Marguerite prendront une des deux mules et ramèneront le corps d'Ada chez les druidesses. Personnellement, je prendrai la mule qui reste et je regagnerai le château en coupant au plus court. Vous dire que le moine fait la gueule serait en dessous de la vérité. Il est prêt à tuer la terre entière. On discute en attendant le soleil. La tension redescend un peu et l'on se sépare. Le moine, Marguerite et la morte ont une petite journée de marche pour rejoindre la source miraculeuse. Et moi, en trottinant sans m'arrêter, je dois pouvoir relier le château dans la nuit prochaine. De temps en temps, la blessure à la tête me lance. Au bout d'un certain temps, j'ai le cul en compote. Cette promenade est un délice. Les derniers lieux sont difficiles. La mule et moi, on en a plein le cul. Sitôt entré dans la cour, je laisse la mule aux gardes et fonce aux cuisines. C'est le seul lieu vivant en pleine nuit. Je raconte, je me restaure. Ils ont été chercher les moines pour soigner ma blessure. Un peu de couture et c'est comme neuf. Le visage lavé, recousu, je tombe d'un coup, d'un seul, sur les sacs de farine. Les derniers mots que j'entends sont « Il est tombé dans les pommes ». Je suis réveillé par la douce voix de Frédérune qui dit que « Si on l'a réveillé pour le voir ronfler, ça ne veut pas le faire ». Je m'assieds comme je peux entre la bastonnade et les 10 heures d'équitation. Mon petit corps dit « stop ». Le cuistot me donne un gobelet que je bois comme un âne. Ça brûle, ça a le goût de merde, mais le cuistot m'assure que c'est ce que l'on fait de mieux comme remontant. J'avale, je rote, je m'aperçois que je me suis pissé dessus, mais la reine veut mon compte-rendu.
« Tu iras te changer après, raconte !»
Je raconte, elle écoute en silence. Quand j'ai fini, elle reste muette un certain temps. Elle réfléchit. Ça, elle le fait souvent. Quand tu n'es pas habitué, ça déstabilise. Et d'un seul coup, ça part. Elle donne des ordres dans tous les sens. Le sénéchal nous a rejoints. Dans l'ordre, on envoie 4 hommes chez les druidesses pour leur filer la main et les protéger. Deuxio, tu te reposes quelques heures et tu vas chez les lutins de la forêt. Tu réquisitionnes quelques hommes et vous partez à la recherche de ces saloupiaux. Vous les trouvez et vous me les tuez. En s'adressant au sénéchal, je ne peux pas envoyer les hommes du château. Si on trouve les malfaisants, il faudrait les juger, etc. Ça fait des frais, et s'ils sont dans un autre comté, on peut avoir des problèmes diplomatiques. En me regardant dans les yeux, tu me règles cette affaire avec qui tu veux. Je ne veux pas savoir, je ne te connais pas, tu auras aucune aide, ça te va ? J'ai demandé si j'avais le choix. La réponse est non. Tu prends les chevaux dont tu as besoin, les armes et la nourriture sont offertes par la maison. Mon argentier te chargera en jaunet. Que Dieu te bénisse. Elle sort, altière, soulevant un nuage de farine au sol. En gros, les emmerdes continuent. Un groupe part pour l'enterrement de la druidesse. Je vais me coucher et dors presque une journée. Quand nous allions lever le camp, les autres reviennent de l'enterrement. Ils nous racontent. On charge les bêtes et alors que le soleil est au zénith, deux cavaliers passent le portail en silence. Les gardes ont reçu des ordres. Le maréchal Ferrand, qui connaissait bien la druidesse, m'accompagne. En cas de sel coup, il sera utile. C'est une vraie bête. On trotte, tirant chacun un cheval de bas, en direction de la grande forêt. La première heure du voyage, je laisse mon esprit vagabonder. Pendant notre voyage avorté à la mer, la reine a reçu un émissaire du duc et de l'archevêque. Elle a résisté, mais au final n'a pu refuser toutes leurs demandes. Des bénédictins vont s'installer au château de Bertrand le Pleutre. Ils vont mener une étude sur la faisabilité d'implanter un couvent. Ça va mettre du temps. On repousse un peu l'échéance. Puisqu'on parle religion, je résume. Beaucoup de monde, très classe, impressionnant. Les gens chantent des chansons que l'on ne connaît pas, mais ça hérisse les poils, etc., etc. Ils auraient même vu, mais ne peut pas le certifier, l'âme d'Ada s'élever vers les cieux dans la fumée du bûcher. Ces jours-ci, je trouve qu'Abelaine se laisse aller. Depuis qu'il a viré sa cutie, ce n'est plus le même homme. Personnellement, je trouve qu'il a pris la bonne décision. Moine, c'est confortable un moment, mais après, faut aller voir dans la vraie vie. Je comprends que ce n'est pas évident de changer de fonction. Avant, il était respecté et écouté en tant que religieux. Maintenant, dans le civil, il se cherche. Le connaissant, il va vite se trouver. Il a expliqué qu'il ferait bien charpentier. Depuis la visite au moulin, ça le travaille. Comme il est habile de ses mains, il va prendre la route et chercher un maître pour faire apprenti. Mon esprit s'arrête sur le cas Marguerite. Marguerite et moi, nous nous connaissons depuis notre enfance. Nous baisons ensemble depuis tout le temps. Ça fait partie de notre système de fonctionnement. On n'a jamais franchement été ensemble. Notre relation est en pointillé. J'ai essayé avec une autre de me mettre en couple. Ça l'a pas fait. Ce n'est pas mon truc. Alors, avec la Marguerite, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Il faut dire qu'elle n'est pas farouche. Notez, elle fait ce qu'elle veut de son cul. Ça lui arrive même de monnayer ses talents. Comme elle dit, faut bien bouffer. Tant que ça reste épisodique, ça me fait chier. Mais je fais avec. Si ça devenait son métier, je pense que l'on ne se verrait plus. Je n'ai pas l'âme d'un macro. On fait une halte pour reposer les chevaux. J'ai le temps de vous conter la cérémonie funéraire d'Ada. J'ai déjà deux versions. Le moine et la reine, qui est allée à titre privé. Elle a fait une partie de son éducation avec une des druidesses. Je commence par celle du moine. C'est la plus rigoureuse. Les fées, seulement les fées. Mais il nous faut repartir. Je vous conterai plus tard.
Vous venez d'écouter Jour à neige, jour à peine sur Radio Bartas.